Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44. Très très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Christian Clot, l'explorateur qui a passé 40 jours dans une grotte d'Ariège.
Bonjour Christian Clot.
Bonjour.
Chercheur explorateur franco-suisse, vous avez fondé l'Institut de l'adaptation humaine. Cela fait plus de 20 ans que vous parcourez le monde dans des expéditions extrêmes pour comprendre comment le corps humain s'adapte, et le cerveau évidemment. Vous êtes donc descendu le 14 mars dernier avec une équipe de volontaires dans la grotte de Lombrive en Ariège. Le 14 mars, nous venons de vivre déjà 2 confinements. Est-ce que c'est le Covid qui a tout déclenché ?
Oui, absolument. C'est de voir l'impact des confinements et la difficulté pour les personnes de comprendre la notion du temps. Au fur et à mesure de l'année qui passait 2020, on avait des pertes de capacité à comprendre ce qu'on avait fait le matin, le soir, se projeter dans le futur. Donc on a voulu comprendre ce que voulait dire le temps pour le cerveau.
Et donc vous partez 40 jours dans la grotte. 40 jours, pourquoi 40 ? C'est Jésus dans le désert, 40 jours.
C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a, scientifiquement, aujourd'hui, on sait que 35 jours, c'est un temps de transformation, un temps de passage d'un état à un autre. Et quand on regarde les grands textes qui ont fondé l'humanité, que ce soit la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita et autres, il y a toujours la notion de 40. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas pour rien.
Mais alors pourquoi aller s'enfermer dans les entrailles de la Terre, dans une grotte où il y a 100% d'humidité, 100% d'humidité, on a du mal à imaginer.
Bonne question.
Il fait 10 degrés, c'est-à-dire que même quand vous vous lavez, l'eau est à 10 degrés. Pourquoi s'infliger ça ?
Je dirais, on n'étudie pas seulement le temps, on étudie aussi ce que veut dire pour un groupe humain de se retrouver dans une nouvelle condition de vie. Comment des humains non préparés arrivent à retrouver un système de vie commune dans une nouvelle condition de vie. Et malheureusement, on va en avoir de plus en plus de ces nouvelles conditions de vie dans le futur avec les changements climatiques et autres. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire de se transformer.
Donc la mission principale, c'est de vivre aussi sans repère temporel. Personne n'a de montre, le temps est écrit nulle part, on ne voit pas le soleil, on ne connaît pas le cycle de la nuit et du jour.
C'est ça, absolument. Aucune notion, aucune manière de connaître le défilement du temps.
Alors qu'est-ce que ça fait ?
C'est incroyablement particulier. C'est la première nuit quand on se réveille dans le noir puis qu'on prend on cherche son portable ou sa montre pour dire mais est-ce que j'ai assez dormi ? Parce qu'on réalise qu'en fait on décide ça par rapport à l'heure qu'il est. C'est très perturbant. Il faut régénérer, repérimétrer sa manière de fonctionner. Et au début c'est très perturbant parce qu'on est temps en tant qu'humain. Tout est temps autour de nous. Et soudainement la pluie. Donc au début c'est perturbant puis petit à petit on réalise que finalement c'est une immense liberté. On se sent très bien dans ces conditions-là.
C'est-à-dire qu'on se décale, on se fiche de dormir 13 heures d'affilée ou...
Déjà, on ne le sait pas. On va se coucher quand on est fatigué, on s'installe, on commence à dormir, et là, on dort. Et puis, à un moment donné, on se réveille. Et tout de suite, il y a cette écoute, non plus de la montre, mais de nous-mêmes. Est-ce que mon corps me dit que j'ai assez dormi ? Si oui, je me lève, sinon, je reste. Et c'est comme ça qu'on arrive à des nuits très, très différenciées. On a des nuits parfois de 5 heures pour certaines personnes, jusqu'à plus de 20 heures pour d'autres.
J'ai vu qu'il y avait une question qui revenait souvent, c'est « Tu crois qu'il est quelle heure ?»
Absolument. Au début, on était là, on se disait, on avait ce besoin de se raccrocher à quelque chose qui nous unit, à savoir les horaires. Mais après, c'était plus une plaisanterie qu'autre chose, on dirait.
Alors, vous établissez des règles. D'ailleurs, il y a une règle qui dit « Personne ne doit réveiller personne. Personne ne doit forcer quelqu'un à manger. »
Oui, il faut que chacun vive à son rythme. Il faut que chacun trouve sa propre temporalité du corps, du cerveau. Et puis petit à petit, finalement, dans ces propres temporalités, les groupes se sont un peu formés. On a commencé à trouver des solutions. On a eu une grande période d'apathie où tout d'un coup, plus personne n'arrivait à fonctionner. On ne savait plus trop où on en était. Puis après, on a redémarré.
Et c'est ça. Est-ce qu'à un moment, il y a un basculement ? Est-ce qu'à un moment, on pète les plombs ? Est-ce qu'il y en a qui ont voulu sortir avant ?
Alors, personne n'a voulu sortir, mais il y a effectivement ces moments, il y a des basculements. C'est le premier temps où on est encore avec ce qu'on avait de l'extérieur, on doit tout découvrir, tout comprendre. On est donc très actif, très concentré. Puis après, on a compris notre univers, on a compris nos fonctionnements. Et là, il y a une chute, une apathie. Et là, il faut relancer, il faut retrouver la raison d'être ensemble. Mais quand on la retrouve et qu'on commence à refonctionner, alors on est adapté à ces nouvelles conditions de vie. Ça prend effectivement environ 35-36 jours. Et là, on pourrait rester ensuite indéfiniment.
Vous êtes parti avec 15 volontaires. Vous étiez 15 au total, 7 femmes, 8 hommes. Vous dites qu'ils sont novices. J'ai vu qu'ils étaient quand même neurologues, psychologues, anesthésistes réanimateurs, guides de montagne, biologistes, spécialistes en chronobiologie.
On n'avait pas tout ça. Alors, guide de montagne, en tout cas, pas. Enfin, moi, je l'ai été il y a très longtemps. On avait effectivement une neurologue et un biologiste qui étaient avec moi, un médecin réanimateur et une infirmière, parce que malgré tout, si on a un problème de souffle, il faut quand même pouvoir le prendre en charge. Par contre, ce qu'ils sont novices, dans la notion de vivre dans des conditions extrêmes, dans des conditions nouvelles de vie. Je dirais que pour moi, c'est quand même un petit village, un petit hameau qu'on prendrait et que tout d'un coup, qu'on plongerait dans une nouvelle situation. Malheureusement, dans la vallée de la Vésubie, il y a pas si longtemps, il y a moins d'une année, on a eu ces conditions. Tout d'un coup, des personnes ont retrouvé leur univers totalement transformé. Et moi, ma question, elle est là. Comment est-ce qu'on arrive à régénérer une fonction humaine socialement compatible dans ces nouvelles conditions-là? Et ce qui est fabuleux de se dire, parce qu'on entend beaucoup, on n'a pas le temps, on n'y arrivera pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en 40 jours, on transforme un groupe humain. C'est quand même beaucoup d'espoir pour le futur.
Mais on le transforme comment? C'est-à-dire, il y a plus de collectifs, c'est ça que vous voulez dire?
On ne le transforme pas forcément volontairement. Le milieu, la nouvelle condition de vie, le transforme. Et quand il y a une volonté commune de faire fonctionner la coopération, alors cette transformation, elle n'est pas seulement individuelle, elle devient collective. Et quand le collectif décide de fonctionner, on l'a vu dans la grotte, on est capable de mettre en place des fonctions nouvelles que personne ne connaissait avant.
Comme quoi ?
Faire des travaux que personne ne savait faire, mais que la coopération permet l'intelligence collective vraiment permet de faire, et surtout de trouver un système de fonctionnement. On n'avait pas d'horaire, alors comment est-ce qu'on se donne rendez-vous ? Comment est-ce qu'on se dit qu'on va travailler ? Tout ça, il a fallu repérimétrer des fonctions communes de vie. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la coopération, quand elle fonctionne, mais elle permet de faire absolument tout. Moi, ça me donne un vrai espoir pour le futur, en fait.
Vous étiez 15, je le disais, 8 hommes, pardon, de vous poser cette question, mais il y en a qui se sont rapprochés amoureusement parlant?
Amoureusement, non, pas à ma connaissance. Et d'ailleurs, je pense que ça aurait été compliqué parce que quand on est dans ces conditions-là, on est surtout focalisé sur la recréation de ce système de vie. Par contre, évidemment, il y a eu des rapprochements. Alors, je ne sais pas si l'amour est le bon terme, mais en tout cas, des amitiés extrêmement fortes. On avait une sensation d'amour les uns avec les autres. On avait une jeune femme qui fait beaucoup de câlins, donc une sorte de câlinothérapie tous les matins au réveil. Donc, il y avait vraiment des liens extrêmement forts. Et je pense que c'est ces liens plus que l'amour en soi qui sont importants.
Mais alors, vous faites quoi dans ces journées? Je ne sais pas si je dois dire journée, d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de temps. Mais on joue aux échecs, on fait de la lecture, on fait des travaux pratiques, de scientifiques. On fait quoi?
Alors déjà, on a un gros travail scientifique à mener, puisqu'on est là pour comprendre comment l'humain fonctionne. Donc, on a toute une batterie de travaux scientifiques. On a aussi à gérer notre système de vie. On doit créer l'électricité, chercher de l'eau, la purifier, assainir notre territoire. Tout ce qui se fait naturellement autour de nous, ben là, c'est nous qui devons le faire. Puis après, on a des travaux dans la grotte. Donc on a périmétré le travail pour avoir à peu près un cinquième de notre vie au travail, ce qui représente ce qui se fait dans la vie de tous les jours aujourd'hui en France.
Quand on sort au bout de 40 jours, on est dans quel état?
Alors on est étonnamment presque déçu. Parce que pour nous, ça faisait seulement 30 jours quand on nous a appris qu'il y avait 40. Donc on n'avait pas fini notre histoire. Et puis on était bien dans cette grotte. On se sentait extrêmement libre. On n'avait plus les injonctions sociales et horaires qui sont extrêmement prégnantes dans nos sociétés. Donc finalement, on était presque déçus de devoir sortir.
Le résultat le plus troublant de cette expérience, je sais que vous n'avez pas encore tous les résultats parce qu'on vous a fait beaucoup de prélèvements. Prise de sang, calcul rythme cardiaque, etc. Hein, vous avez été beaucoup analysé.
C'est ça.
Les premiers résultats disent quoi?
Le premier résultat que je trouve extraordinaire, c'est de dire que des humains vivent pourtant à leur propre rythme auto-personnel, mais qu'il y a une volonté de coopération. Il y a réellement une synchronicité sociale. C'est l'horloge sociale qui prend le dessus, plus que l'horloge biologique ou d'injonction extérieure. Donc c'est extraordinaire de voir ça.
En fait, quand on est capable de s'ouvrir, d'aiguiser sa curiosité, de s'émerveiller.
Exactement.
On est capable d'affronter plus de choses, d'aller de l'avant.
Oui, moi ce que je pense que extraordinaire, c'est qu'on est capable de s'adapter à tout si on a cette volonté, cette capacité de vouloir le faire ensemble. Et l'émerveillement qu'on crée collectivement autour d'un territoire, il est juste fabuleux.
Merci beaucoup Christian Clos donc pour cette descente dans cette grotte de Lombrive dans l'Ariège. Ça s'appelle Deep Time, c'est le nom de la mission. 40 jours sous terre chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et en 40 jours, on transforme un groupe humain et ce groupe s'adapte. C'est un grand espoir, vient de nous dire Christian Clos. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr.